Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Nous avons appris avec quelques surprises le décès de l'historien la semaine dernière, Claude Lacombe. Alors c'est un passionné du Périgord, d'histoire et de lettres et il est décédé le lundi 26 août dans sa 71e année, ce qui pour l'époque est quand même assez jeune. Alors, il y a l'essor sarladé du 30 août de cette année, évidemment, lui a consacré un article. Je vais en puiser quelques lignes. Voilà ce qu'il nous dit. Dès 1954, l'homme issu d'une famille salignacoise s'est dirigé vers une carrière de professeur qui le mènera à enseigner l'histoire au collège Yvon Delbos, jusqu'à Montignac jusqu'en 2010. Alors, féru de culture locale, il écrira aussi deux biographies sur Jérôme de Périgueux, Chapelain du Cid, et sur Eugène de Roy avec Richard Borde, et des ouvrages tels que Le Peuple des Granges avec Jean-Michel Lainfort. Sur le monde paysan, les livres de Lino, donc ça a paru au livre de Lino en 2020. Alors on nous précise également qu'il était directeur de la publication de la revue trimestrielle Art et Histoire en Périgord Noir, bulletin de la Société d'Art et d'Histoire de Sarlat, et du Périgord Noir, et je pense que son décès va quand même laisser un vide. Alors il était également l'organisateur depuis 1999 d'Archilivre, le salon du livre d'Archignac, son village, où est remis le Grand Prix Périgord de littérature. Voilà, alors, bien sûr, il y avait beaucoup de monde à ses obsèques, mais j'ai sous les yeux un livre qui s'intitule « Le château de Salignac en Périgord ». Alors, ce qu'on nous dit sur la quatrième de couverture, dans son état actuel, le château de Salignac témoigne de l'histoire millénaire du village établi auprès de lui aux confins du Périgord et du Quercy. Première des quatre châtellenies du Périgord, ce château raconte à qui sait l'observer la guerre de Cent Ans, la Renaissance et les guerres de religion. Son architecture témoigne de la qualité du travail des bâtisseurs du Moyen-Âge. L'histoire de ses propriétaires successifs témoigne, quant à elle, la noblesse des hommes et des femmes qui l'ont habité. Alors, à l'écart des grands circuits de visite du Périgord, le château mérite que l'on s'y arrête pour goûter un peu de la douceur de vivre périgourdine. Voilà, alors, je veux dire que le château, je ne sais pas s'il se visite. Moi, je suis rentré il y a quelque temps, et donc on peut visiter, je crois, les abords de la bâtisse. Alors, il y a évidemment le château de Salignac, donc par Claude Lacombe. Le touriste qui se rend de Brive à Sarlat est au surpris de traverser, après la Risplaine Limousine, un pays pierreux et presque désertique, où ça et là seulement quelques bouquets de verdure et quelques bois de chêne tempèrent la beauté des sites rocailleux. Brusquement, au sommet de la côte de Polens, son regard étonné découvre une terre de Chahanan, avec à l'horizon le clocher, le château et le bourg de Salignac. Alors, Salignac, il s'écrivait bien sûr Salagnac, puisqu'en Occitan, on disait Chologna et non pas Salignac. Voilà. Alors ainsi débute, donc je continue la lecture, ainsi débute la préface de l'un des livres que le docteur Paul Villat a consacré à l'histoire du canton de Salignac. Les 6 volumes, rédigés pour la plupart durant la décennie précédant la Deuxième Guerre mondiale, constituent une source d'information du plus intérêt pour l'amoureux du Périgord noir. C'est en eux que nous puiserons les substantifiques moelles de notre travail en y joignant le fruit de nos recherches personnelles. Alors bien sûr, il y a la situation bien sûr de ce château du point de vue géologique. Le site de Salignac offre la particularité de se trouver à la limite des plateaux crétacés dessinant un relief de côtes allant de la Bachellerie à la région de Gourdon en passant par Jaillac. Ce relief de côtes fait face aux premières ondulation du Causse de Nadaillac et de Siméirol, constituant en quelque sorte l'un des anciens rivages de la mer qui recouvrait le Crétacé, qui recouvrait au Crétacé, excusez-moi, la majeure partie du Périgord. Voilà. Et alors, bien sûr, même sur Sarlat, lorsqu'on va dans les terres, on découvre des fossiles, ce qui amuse d'ailleurs un peu les enfants. Alors géographiquement, le village de Salignac se situe non loin de la jonction des départements de la Corrèze, de la Dordogne et du Lot, à la limite du Périgord noir et du Quercy, à peu près à la distance de l'Arche et de Montignac, de Sarlat et de Souillac. Aucune grande voie de circulation ne traverse la commune. Cependant, jusqu'au XIVe siècle, même jusqu'au XVIIe, Salignac constituait une étape sur le chemin de pèlerinage de Périgueux vers Rocamadour. Alors, topographiquement, le village actuel s'étend autant sur le plateau que sur sa pente qui s'avance vers le château en le surplombant légèrement. Le château est établi quant à lui sur un piton rocheux isolé du plateau par une faille nettement marquée. À son pied, le quartier du Barry présente un parcellaire témoignant d'un lotissement régulier du terroir au Moyen-Âge. Un petit ruisseau issu de la source de la canale va se jeter à quelques centaines de mètres plus loin dans la Borèze et serpente dans le vallon qui alimente plusieurs la voie. C'est vrai que, bon, on installait bien sûr les châteaux ou les, comment je peux dire, les bourgs, bien sûr, près des ruisseaux, près des rivières. Alors, dans le Moyen-Âge, le château de Salignac va constituer le point de convergence de chemin menant des villes et des villages environnants. Alors, bien sûr, il y a Sarlat, Souillac, Carlus, Saint-Genier, Sarcignac, Saint-Crépin, etc. L'observation attentive de la photo aérienne permet de reconnaître encore les tracés. Alors, on va poursuivre un petit peu cette lecture. Alors, au Moyen-Âge, alors c'est très certainement Geoffroy de Salignac, provenant du nom, vers 980 que l'on doit l'aménagement d'une motte surmontée d'un donjon en bois sur le piton rocheux dominant le vallon qui descend jusqu'à la Borèze. Il n'en reste rien de ce donjon primitif. La botte est toujours là, bien que remaniée et son pourtour par divers murs d'enceinte indépendamment de la châtellerie. Alors Geoffroy de Salignac possédait les fiefs en Quercy et dans la vicomté de Turenne et de Gimel et en bas Limousin. Alors pour le spirituel, la seigneurie châtelaine de Salignac relevait alors de l'évêque de Limoges. C'était la première des quatre grands châtelainies des Périgord, la seconde étant Mussidan et la troisième Limeuil et Grignol, la quatrième. Ces seigneurs avaient rang immédiatement après les quatre premiers barons des provinces. Alors, je vais bien sûr vous redonner les baronnies du Périgord. Il y a Beignac, Birot, Bourdeille et Mareuil. Alors voilà, donc les quatre baronnies principales du Périgord. Alors, sur les origines du château et de la seigneurie de Salignac, la légende raconte que Saint-Martial, apôtre allant et venant par l'Aquitaine pour la conversion des hommes, et qui tout à l'heure était en ténèbres et à la gentilité et à l'idolâtrie, passait quelquefois par l'illustre maison de Salignac où il était bien accueilli. Ce que sachant, Saint-Amadour, comme ce lieu de Salignac n'était pas beaucoup écarté de son roc en ermitage, il allait visiter Saint-Martial, ainsi qu'à l'appareil Saint-Martial venait le voir. Voilà. Alors, donc Amadour, c'était Rocamadour. Une tour appelée Saint-Martial existe bien dans le château. C'est là que se trouvait la chapelle. Dans l'un de ses récits écrits vers 1040 et 1050, le livre des miracles de Sainte-Foy de Conques évoque le castrum Salignacum pour y situer une délivrance miraculeuse à la Sainte. Voilà. On va passer un petit peu tout ça. On va arriver donc tout au Moyen-Âge. En 1460, la seigneurie Salignac devient baronnie et le seigneur Antoine de Salignac baron. Antoine de Salignac est de plus seigneur de Rouffignac, de Tursac, de Millac, les châteaux Châtel-et-Nie, de l'Arche, Terrasson, etc. Un peu moins d'un siècle plus tard, sous le règne de François Ier, la baronnie passe de la famille de Salignac à celle de Gontaut-Biron par le mariage en 1545 de Jean de Salignac avec Armand de Gontaut-Biron, seigneur de Puybétou et de Madaillan, auquel elle apporte en dot la baronnie paternelle. Avec Jean de Salignac, Bertrand, son père, finit la famille de Salignac proprement dite et va continuer par la branche des Lamotte-Fénelon. Évidemment, on va retrouver le plus célèbre, l'abbé de Fénelon. Alors, on va passer un peu, comment je pourrais dire, la période royale, et on va arriver au début de la Révolution. Alors, le début de la Révolution ne verra se dérouler à Salignac que les contre-coups des manifestations des mécontentements populaires, dont celles qui sont déroulées au château de la Forêt à Paulhan. Dès la fin de novembre 1789, en effet, après divers échanges de propos souvent agressifs entre le seigneur de la Forêt et quelques particuliers, depuis depuis début septembre, la séquestration pendant quelques heures de l'année, meneur, la foule mécontente forcera le portail et l'avant-cour du château. On visitera les communs et se regroupera au centre des bâtiments. Alors Joseph Debar, seigneur de la Forie, Vierval et Archignac leur fera apporter des vivres et du vin. À la pointe du jour, plus de 200 personnes seront encore dans l'avant-cour. Joseph Debar devra répondre aux doléances et réclamations des paysans, donnant par écrit, quittance et assurance et payant en argent, comptant les sommes contestées. La dénonciation à la prévôté de cet attroupement sera à l'origine des poursuites contre les meneurs et amènera leur arrestation. Alors on va passer un peu c'est démêlé de la révolution. Alors dans ce livre intéressant, il y a bien sûr la description architecturale. Alors on va la passer, le donjon, il y a le porche, la chapelle, l'enceinte, la partie, bien sûr il y a une partie ruinée comme un peu partout, le château, etc. Alors le château, je crois, avait servi pour quelques scènes de Jacques le Croquant, ça fait quand même quelques-unes. Alors, il y a bien sûr des personnages, des personnages célèbres. Alors, quelques-uns de ceux qui, depuis 1000 ans, ont vécu dans ce château, ont su garder toute sa noblesse, méritent d'être évoqués. Alors, l'histoire est sûrement incomplète, puisque l'on sait que depuis la réunion du Périgord à la Couronne, en 1393, les seigneurs Salignac ont successivement été appelés aux charges les plus éminentes, soit dans le gouvernement de ce pays et des contrées voisines, soit à la cour dans les ambassades et les armées. Alors étant donné que sous le règne de Charles VI, de Charles VII, un sénéchal de Périgord et de Quercy, sous les règnes suivants, un chambellan de Charles VIII, gouverneur du Limousin et de Périgord, des capitaines et lieutenants de compagnie d'ordonnance, un lieutenant général de la marche, trois chevaliers des ordres du roi, un ambassadeur plénipotentiaire en Angleterre. Et puis, il y aura aussi, auprès d'Elisabeth, un autre à Hollande, plénipotentiaire au congrès de Soissons, trois généraux et nombre d'officiers qui ont trouvé dans leur service honorable distinction. Alors, bien sûr, on l'évoquait un peu tout à l'heure, indépendamment de l'illustre archevêque de Cambrai, François de Salignac, de la Montfendon, la famille de Salignac a donné deux archevêques de Bordeaux durant le XIIIe siècle et le XIVe, et six évêques au siège de Sarlat et trois sièges de Comminges, de Pamiers et de Lombèze. Voilà. Alors, évidemment, on pourrait dire beaucoup de choses, beaucoup de choses sur ce château et ses occupants. Alors, on va passer un petit peu. Alors, nous évoquerons aussi Barthélemy Salignac, frère du baron du Dilieu, docteur en droit, proto-notaire du siège et qui voyage du Levant est en mai 1520 et suivante, on se fait remarquer la singularité de la Terre Sainte et en fait un livre en latin de qualifié imprimé à Lyon en 1526. C'est la plus ample description de la Terre Sainte qui a été faite avant lui et que d'autres auteurs utiliseront largement. Alors il y a aussi Jean de Gotobiron, né au château de Salignac en 1553, il sera élevé dans la religion catholique jusqu'à 7 ans, date d'adjuration de son père. Il sera alors placé comme page auprès du futur Henri IV. Il débutera dans la carrière diplomatique en servant d'intermédiaire entre Henri de Béarn et Catherine de Médicis. Il montrera sa valeur militaire au siège de Montségur en 1585 et à la bataille de Coutras. Ses aptitudes de diplomate dans la mission que lui confiera Turenne de l'accompagner auprès des souverains d'Allemagne et d'Angleterre à la mort d'Henri III. Voilà, alors je vais terminer rapidement. En 1596, il épousera Marguerite Hureau de l'Hôpital, petite-fille du chancelier Michel de l'Hôpital. Voilà, eh bien je crois que j'ai terminé. Donc je vous conseille, si vous le trouvez, ce château de Salignac en Périgord, qui est, ma foi, très intéressant. Mais quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine, pas trop pluvieuse, et à très bientôt.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.